cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
الحوادث في البلاد النقود تعجت لشوطة وصبروا داب في الملاحات والنبي صخت العيال نصيبهم مال زي البنات وان نادية باريزة وقعت وان فاطمة شرب رجعت وان شكري وكالة قرر يشتغل في الممنوعات
Bonjour Zed Hamdan.
Bonjour.
Vous êtes à Paris, ou plus précisément en Seine-Saint-Denis, puisque vous avez deux dates pour le festival Métis, pour cette cuvée 2012. Alors une date à Villetaneuse le 3 avril, une date à l'Île-Saint-Denis deux jours après, le 5. Deux projets assez différents. Je préciserai pour ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes chanteur, compositeur, arrangeur, guitariste, enfin une sorte de... d'homme orchestre presque, producteur aussi. On vous colle souvent l'étiquette de figure emblématique de la scène underground libanaise. On parlera peut-être de cette étiquette après. Mais parlez-nous peut-être d'abord justement de ces deux projets assez, assez différents. Peut-être d'abord la date du 3 à Villetaneuse avec Daniel Baladi.
Le 3, j'invite un artiste qui est un très bon chanteur d'arabe classique. C'est un jeune homme qui a, de par sa famille, grandi dans la culture orientale des grands chanteurs classiques comme Wadi Asafi et même les chanteuses Asmahan, Oum Kulsoum. Il a cette culture-là et il a un parcours assez atypique puisque il est passé par la case heavy metal vu qu'il était un garçon qui avait un grand coffre et qui a vécu des choses assez dures. Il a switché à son adolescence au heavy metal. Et c'est là-bas que je l'ai découvert, que j'ai découvert sa voix. Et on m'a dit, mais il chante aussi l'arabe, ce garçon. Et donc, quand je l'ai entendu chanter, j'ai proposé de venir chez moi pour me faire écouter. Et il a une voix arabe très, très belle. Donc, j'ai décidé d'adapter un répertoire qui serait un peu pop, un peu électro, un peu rock, à ses compositions classiques. Donc, on est en train d'essayer ces choses-là et on va les présenter donc, le 3.
De Oum Kulsoum jusqu'au heavy metal, ça, j'imagine que ça vous plaît parce que c'est un peu comme vous. Vous avez une sorte de vision à 360 degrés de la musique, des projets assez différents. C'est facile justement de travailler quand on travaille avec quelqu'un qui est comme ça, ouvert, comme soi un petit peu.
Il faut trouver des gens qui sont prêts à jouer avec la musique classique. Parce que au Moyen-Orient, au Liban, c'est dur. Les gens ont tendance à être très protecteurs envers les grands classiques.
C'est cloisonné en fait, c'est vraiment très cloisonné entre.
Oui, c'est-à-dire ils se mélangent pas. Ceux qui font la musique classique ne vont pas facilement essayer d'autres choses avec, parce que il y a l'histoire des quarts de ton aussi. Il y a certaines choses, certaines règles à suivre. Moi, j'ai toujours suivi mon oreille, c'est-à-dire que quand quelque chose sonne bien, j'aime l'écouter. Et c'est comme ça que je me suis mis à aimer la musique arabe, c'est-à-dire que j'avais ma collègue Yasmine qui me faisait écouter des chansons arabes et je les reprenais à la guitare, ce qui se fait pas trop puisqu'il y a pas de carton. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à comprendre les compositions et à les apprécier. Donc aujourd'hui, j'adapte le répertoire de Dani avec une formation qui serait plutôt européenne, je dirais. Mais en jouant avec des samples, en faisant un mélange électronique. Et je pense que ça permet à un public qui ne connaît pas la musique classique de mieux comprendre comment elle est composée.
C'est facile d'arriver à aboutir à un collage qui a un sens, qui a une certaine valeur artistique, quand justement on mélange des... le festival s'appelle Métis, vous avez aussi une approche de musique assez métissée également. Est-ce que parfois on peut se retrouver dans un cul-de-sac parce qu'on n'arrive pas à associer, à arriver à trouver une voie? Est-ce que là, pour ce projet-là par exemple, ça s'est fait facilement?
Moi, si tu veux, ma recette c'est minimaliser. L'essentiel c'est que la voix, que celui qui chante sache bien porter les mélodies. C'est des mélodies souvent complexes. Et Danny, il est, c'est vraiment un très bon chanteur. Donc, j'essaie juste de le mettre en avant et derrière de porter avec des rythmiques simples, une musique minimaliste, pas trop alourdir comme on entend dans la musique folklorique, mais reproduire de façon minimalisée ces grandes, voilà, ces grandes compositions. Donc j'ai l'habitude de faire ça et c'est ce que j'adore faire parce que souvent je trouve que même en dépouillant ces chansons de leurs orchestrations lourdes, on les redécouvre comme des unplugged. J'aime beaucoup la musique classique réinterprétée de cette façon.
Après, donc le 5 avril à l'île Saint-Denis, autre projet cette fois-ci avec la chanteuse égyptienne Mariam Saleh.
Mariam Saleh est une fille que j'ai rencontrée à Alexandrie. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui vient du répertoire classique égyptien. Mais quand je dis classique, pas tellement les grands ensembles, mais les chanteurs de rue. Plus précisément, Cheikh Imam. Voilà, Cheikh Imam, c'est un ami proche de son père, de la famille, donc, qui venait chez eux à la maison et qui lui faisait chanter ses chansons. Et donc, elle a cet humour et elle a cette façon de prononcer l'égyptien, qui est l'égyptien de la rue, qui est l'égyptien satirique. J'ai adoré ça, j'ai adoré mettre ça en musique, avec des musiques actuelles, parce que ça sonne très moderne, on dirait. Du hip-hop chanté, mais et elle a une très belle attitude, un très beau charisme et une voix qui ressemble pas aux voix classiques qu'on connaît, mais avec un grain bien précis. Et donc ça, je me suis mis à lui enregistrer des titres depuis un an déjà. Et c'est ce qu'on vient présenter aussi.
C'est une valeur particulière en plus avec ce qui s'est passé il y a pas très longtemps en Égypte.
Oui, parce que les textes de Cheikh Imam, d'abord, ils sont très... Cheikh Imam a fait la prison sous les trois régimes, tu vois, il connaît tous les régimes, et ça a toujours été quelqu'un que les autorités voulaient faire taire. Mariam, aujourd'hui, ressemble beaucoup à Cheikh Imam dans sa façon de vivre, de gérer son quotidien, c'est-à-dire qu'elle n'accepte pas le blabla, elle va direct aux choses essentielles, elle écrit elle-même des textes qui sont souvent en rapport avec la situation. Une des chansons qui sont sur le disque, ce n'est pas Cheikh Imam, mais d'un ami à elle qui s'appelle Réforme, Aslahat. Et pareil, ça parle beaucoup de la situation et de la difficulté que rencontrent les Égyptiens aujourd'hui. Donc Je pense que Mariam va avoir une carrière très grande et très longue par rapport à ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Elle est vraiment révolutionnaire.
Alors finalement, ces deux projets, ben, évidemment, vous y participez. Donc, il y a de vous là-dedans, c'est évident. Mais c'est aussi tout ce qu'on disait tout à l'heure, ce côté 360 degrés, l'approche de la musique. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, cette étiquette de figure emblématique de la scène underground libanaise qui vous colle à la peau, c'est quelque chose que vous assumez, que vous revendiquez, qui finalement juste un truc marketing.
Ben ça c'est un titre qu'on m'a donné, c'est pas, j'ai jamais j'ai toujours voulu être la figure emblématique de la pop
ça,
moderne le nouveau, je sais pas moi, mais non, mais en fait moi ce que j'aime surtout faire c'est rencontrer des gens qui ont du talent et être à leur côté, travailler à leur côté et qui me donnent l'inspiration, parce que je suis toujours à la recherche d'inspiration pour sûr. Et au Liban, il y a tellement d'artistes. Au Liban, au Moyen-Orient ou même en Afrique, il y a souvent des grands talents que personne ne regarde parce qu'on n'arrive pas à les caser, à les mettre dans une case précise. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un groupe qui a pas mal marché. Donc, j'ai eu accès à de l'équipement et à un savoir-faire en matière de production. Et je fais partager chaque artiste que je rencontre et que j'aime. C'est pour ça qu'au bout de quelques années, j'avais beaucoup de productions dans mes tiroirs.
En même temps, vous aussi, on a un peu du mal à, finalement à vous étiqueter, parce que quels que soient vos projets, quelles que soient les matières musicales que vous tripotez, que vous malaxez, que ça soit soit seul, soit Sopkills ou The Government, ce genre de choses, ou même d'autres choses, quand vous collaborez avec d'autres artistes, il y a des saveurs qui sont effectivement parfois très pop, très rock, d'autres qui sont très électro, parfois l'influence de la musique arabe va être très flagrante, parfois pas du tout. Vous slalomez, vous êtes un peu insaisissable.
J'ai l'impression d'être vraiment un enfant de cette nouvelle génération de producteurs qui, avec l'effondrement de l'industrie du disque et l'internet, a trouvé une grande liberté. Surtout, on a sauté les étapes, on avait un accès direct au public. Donc moi, je produisais et puis direct, j'allais jouer en concert et vendre mes disques que j'allais presser dans la banlieue de Beyrouth en pirate et que je diffusais. Donc j'ai aucune règle, on m'a jamais dit... Souvent, on me conseille, on me dit, mais non, il faut que tu te concentres, que tu aies un nom qui représente une certaine musique. Mais moi, je fais vraiment la musique pour le plaisir de la musique. C'est-à-dire que je tiens à rencontrer des gens et passer un très beau moment et faire de la belle musique. Donc, si demain, je rencontre un Indien d'Amérique latine, peut-être que j'aurai un projet dans ce style. C'est-à-dire que c'est ça qui me conduit, qui me fait me lever le matin. C'est la soif de belle musique.
Mais si vous êtes effectivement à l'image, comme vous venez de le décrire, d'autres musiciens, producteurs comme ça, qui peuvent être un peu ouverts d'esprit et qui sont pas dans certains comptes des ornières, il y a aussi la particularité d'être né à Beyrouth, dans un pays, enfin dans une ville et dans un pays, quand on prononce ce nom, on ne pense pas tout de suite obligatoirement à l'art ou à la musique en général, mais on a plutôt tendance à associer ça à des conflits, à des guerres, que ce soit interne ou externe, etc. Comment justement on prend cet élément atypique par rapport à votre équivalent qui serait né par exemple aux États-Unis ou qui serait né en Angleterre ou en France, il y a quand même une donnée qu'on ressent parfois évidemment clairement dans votre musique, parfois pas.
Ça, ma situation, la situation de notre région, je l'exprime beaucoup dans mes propres disques, puisque je fais des disques où je chante, où je compose, et ces disques-là, il y a toujours, on sent l'environnement. La thématique de ces disques, c'est souvent la séparation due au quotidien qui se casse, c'est souvent en rapport avec les rêves qui n'aboutissent pas à cause des conflits. Donc je mets beaucoup de ça dans mes compositions et je nourris mes textes de ça. Mais ça concerne ma carrière propre, qui est aussi un mélange d'arabe et de pop. J'ai tendance à dire que ce que je fais, c'est de la nouvelle pop arabe, parce qu'elle ne ressemble pas aux productions des pays du Golfe et les productions égyptiennes. C'est une pop assez aseptisé, synthétisé. Donc ça concerne mes projets perso. Mais moi, aujourd'hui, j'ai plutôt une étiquette de faire de la nouvelle musique arabe. C'est comme ça que les gens ont tendance à me reconnaître. Même si mon intérêt pour la musique, c'est pas juste la musique arabe. Mais mon grain, c'est les choses pour lesquelles les gens me reconnaissent, c'est le fait d'avoir samplé de vieux disques arabes et de les avoir réactualisés.
إحساس أحب كل الناس وأمتلي إحساس وأحس جوايا بميت نغم ميت نغم يملو السكات ساعات 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 أحب عمري وأعشق الحاجات ساعات 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 أحب عمري وأعشق الحاجات وساعات ساعات
Comment vous avancez justement dans vos projets? Vous avez dit tout à l'heure que c'est souvent lié parfois à des rencontres, c'est important effectivement, mais comment ça se passe finalement? Votre cerveau explose, vous avez envie d'avancer, de faire 50 000 choses en même temps? Ou est-ce qu'un projet en chasse un autre? Comment vous fonctionnez un peu?
Ben, généralement, je choisis sur l'année 3 projets, parce que aussi, j'aime pas passer plus de 4 mois à faire la même chose, ça m'ennuie et j'aime bien bouger et voyager. Donc, je donne toujours 4 mois pour mon projet personnel, ma musique, qui sont mes albums, et 2 autres artistes sur lesquels je vais essayer de faire aboutir un disque et monter un spectacle. Et des fois, ma musique personnelle, ça peut être une musique de film. Récemment, j'ai collaboré sur un film syrien de Meher El-Roumi, qui va bientôt sortir. Et puis, juste avant, le film de Daniel Arbid, Beyrouth Hotel. Et ça me fait donc voyager et rencontrer beaucoup de monde. Et aussi, ça me met à l'épreuve. C'est-à-dire, quand tu es face à un réalisateur, il te demande ta musique, puisqu'il vient vers toi pour la musique qu'il connaît. Mais il faut aussi s'adapter au film, se mettre au service d'une œuvre d'art. Et donc ça me permet de ne pas m'ennuyer en musique, c'est ça le plus important. Et je déteste quand la musique devient un métier. Moi, je n'ai jamais décidé de faire de la musique comme un métier. J'ai toujours décidé de travailler pour nourrir ma musique, c'est dans l'autre sens. Donc c'est surtout ça qui me conduit, les rencontres et le besoin de créer.
Comment vous avez grandi musicalement? Comment s'est fait votre éducation musicale? Là, on arrive aujourd'hui où il y a un côté effectivement arc-en-ciel très très vaste dans les stylistiquement, etc., en termes d'influence, en termes d'envie. Mais si on reprend, j'allais dire, le chemin au premier épisode, vos premiers émois en musique, c'était quoi? C'était ce que vous entendiez à la radio?
J'ai grandi au milieu d'un environnement très rétro, bloqué en 76 quand il y a eu la guerre au Liban. Je suis né. La musique s'est figée à Beyrouth, il n'y avait plus de choses nouvelles qui rentraient. Donc quand j'étais petit, c'était beaucoup les chanteurs français de variété. Et ensuite, on a dû voyager.
Il y en a que vous adoriez à l'époque? Vous subissiez finalement?
Subi, mais c'est des gens, c'est des stars au Liban, mais elles ne sont pas connues ici. Jean-Louis Castellane et Michel Laroche et je ne sais pas quoi. C'est des noms avec des textes très... bon, ils sont à pleurer, ils sont niais quoi. Ouais. Mais c'est ce que les Libanais écoutent jusqu'à aujourd'hui, parce que ça est resté en boucle pendant des années.
Mais vous, quelle était la première chose qui vraiment vous a touché, vous a scotché un peu?
Donc moi j'ai commencé là-dessus, ensuite... J'ai été en France pour 5 ans parce qu'il y avait la guerre s'est trop intensifiée. Là-bas, c'était le début du mouvement hip-hop avec le début de Nova. Mon frère écoutait David Bowie et les Doors. Ma sœur écoutait les Beatles, Pink Floyd. Donc j'ai eu ces deux grandes influences. Ensuite, j'ai beaucoup aimé NTM et IAM. Ensuite les compiles Rap Attitude, j'adorais, donc j'ai eu un côté hip-hop assez fort. Ensuite il y a eu Portishead Et là, je rentrais au Liban. J'ai été très influencé par Portishead. J'ai rencontré Yasmine. On a refait comme du Portishead en arabe. C'est, plein de gens disaient, tiens, votre musique ressemble à Portishead. Mais c'était ma grande influence. Ensuite, Radiohead. Et ensuite, Missy Elliott. Et donc, tu vois, je suis passé de beaucoup de styles. Avec une case Manowar, Metallica, Pantera. Parce que j'étais ado et j'aimais beaucoup l'attitude et l'ambiance. Le truc de conquête, comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à explorer, à écouter beaucoup. J'ai une phase reggae assez intense aussi. J'ai découvert Augusto Pablo à une époque. J'avais un melodica et j'ai accroché là-dessus. Et j'ai fait quelques voyages en Afrique qui m'ont aussi beaucoup marqué. Donc c'est comme ça que ça se passe.
Les sonorités reggae, il y avait sur ce titre qui vous a coûté quelques heures en ouais. prison. Bon, c'est vrai que ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même quelque chose. C'est vrai que quand on parle de création, on a encore du mal, quand on est encore en Occident, de dire que bah, parfois, en chantant avec 2-3 notes de musique et 2-3 mots, on peut se retrouver encore derrière ouais. les barreaux.
Moi, ça me faisait rire de me retrouver en
prison.
Pour
en plus, un titre qui datait de, je crois, qui était plus ancien.
Il avait déjà 2 ans.
Il avait déjà 2 ans, quoi.
Mais quand j'écoutais le rap français en France, ils insultent tous, tout le monde, tu vois. Et là, je trouvais ça ironique d'être face à ces policiers pour... juste le mot rentre chez toi. J'ai trouvé ça stupide. Mais bon, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça a surtout réveillé les gens sur ce qui se passait dans leur pays par rapport à un mouvement qui est en train de se généraliser, qui est la répression, qui est la censure. Et je suis content que cette chanson, que je trouve innocente, tu vois, ait quand même éveillé les gens à cet État qui est en train de les opprimer et de les censurer. Le Liban s'enfonce dans quelque chose de très laid et il faut que moi et Danielle Albit, qui est une réalisatrice, et d'autres artistes continuent à faire des choses qui aillent contre la censure.
C'est quoi le rôle justement de l'artiste dans ces cas-là? C'est d'être une sorte d'homme politique, d'être un commentateur social, d'être un...
Je pense que l'artiste ne doit jamais être dans la politique. Il doit toujours être un modèle pour les autres. C'est-à-dire qu'un gamin qui regarde un artiste, qu'il ait envie d'aspirer à ça, c'est-à-dire que l'artiste soit inspirant, qu'il soit libre, qu'il n'ait pas peur, qu'il s'exprime librement et qu'il soit quelqu'un qui donne envie de vivre et de faire des belles choses. Un modèle, quoi. J'aime bien, les artistes sont des modèles. Mais pas, il ne doit pas aller dans la politique parce que... il y a trop de manipulation dans la politique, il n'y a jamais de liberté, il y a toujours des considérations de diplomatie, de choses comme ça, qui font que ça salit l'art. Parce que nous, on sert l'art, on ne sert pas les gens, en fait. On est au service de quelque chose qui n'a pas un sens ou une explication, c'est la création. Et c'est juste ça qu'on doit faire, tout en restant dans notre façon de gérer les gens et la vie des gens honnêtes et droits, quoi.
Des blue doigts, j'ai mis en ta macadie, donc un blue doigt, j'ai mis en ta main, donc un blue doigt, j'ai mis en ta macadie, donc un blue doigt, j'ai mis en ta main. What a maraday, I got done that a time I do ya on the day, journey known by Allah, I got today. Donc un blue doigt, j'ai mis en ta macadie, donc un blue doigt, j'ai mis en ta main. What a maraday, I got done that a time I do ya on the day, journey known by Allah, I got today. Do me the fine, 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 do me the fine
Comment se fait justement par rapport à la possibilité Internet, etc., à la population locale, justement, d'être au courant qu'il n'y a pas les moyens de sortir du pays ou de voyager, etc., d'être au courant de ce qui peut se passer artistiquement ou...
ben, moi, j'ai créé...
Est-ce qu'il y a une scène underground vraiment, qui est vraiment développée ou est-ce que c'est vraiment confiné à ben, une sorte de micro-cosme ?
Nous, on est boudés par tous les médias, pour sûr. C'est-à-dire que là-bas, le temps d'antenne s'achète. L'Internet n'est pas assez... développé pour qu'il y ait des radios internet. Donc on est tous fait à la main encore, c'est-à-dire qu'au Liban, je book un lieu, j'imprime des flyers et je vais distribuer dans toutes les rues. Et je, pendant une semaine à deux semaines, je vais être là chaque soir dans des rues à rencontrer les gens et à leur parler de ce que je vais leur présenter pour remplir une salle de 200 à 300 personnes qui vont payer un ticket, qui vont me permettre de vivre de mon travail. Et mes disques que je vais imprimer donc chez celui qui grave.
L'impresseur,
voilà, voilà, je vais les mettre dans mon sac à dos et à vélo je vais aller les livrer. J'annonce sur Facebook que je livre mon CD et les gens me contactent, ils m'SMS et je vais leur passer mes disques. Ça c'est Beyrouth aujourd'hui. Ça c'est la production underground. C'est à l'arrache et c'est que ceux qui vraiment veulent en vivre qui y arrivent quoi. Les autres.
Est-ce qu'il y a des freins autres que économiques ? Est-ce qu'il y a de la censure encore ? Est-ce que vous dites tout s'achète finalement ? Voilà, que l'Internet n'est pas tellement développé. Est-ce qu'il y a une crainte de là, par rapport à l'avenir ?
Le grand frein, c'est les mentalités. C'est qu'une fille qui va dire à son père : papa, je veux être une artiste. Elle,
oui,
elle se prend une paire de claques parce que le papa, il regarde la télé, une artiste, on dirait une pute. Ouais. Elle est surmaquillée, machin. Ils utilisent la femme de façon assez sale dans la pop musique. On montre le pire de ce qu'il y a. Donc, c'est sûr que la société ne va pas encourager l'art en général. Donc, ça, c'est le premier frein. Il faut qu'une artiste, un artiste accepte et assume son rêve et qu'il aille à fond. Le second obstacle. C'est renoncer au confort. Un artiste, ça vit pas confortable. Un artiste, ça souffre pour juste créer. Donc, il faut qu'il accepte qu'il peut pas s'acheter une maison, qu'il peut pas avoir le dernier modèle de voiture, même pas de voiture. Renoncer à plein de choses que la télé et les médias te donnent envie d'avoir. Tu vois. Moi, je vis vraiment en dehors, si tu veux, de ma société. Mais je me lève le matin, je suis heureux de faire ce que j'aime. Tu vois, ça, c'est un prix. Donc ça, c'est les deux grands obstacles, je pense. Mais pas seulement au Liban, je pense que c'est partout.
Quel type de mélomane vous êtes ? Est-ce que vous êtes une sorte de glouton de musique ? Vous écoutez tout le temps, vous téléchargez tout le temps, vous achetez des disques, vous allez au concert tout le temps, dès que vous entendez un nom, ah, vous voulez savoir ce que c'est ? Ou vous avez plutôt des phases ou...
Non, honnêtement, je ne suis pas du tout celui qui accumule et qui archive plein d'artistes. J'accumule les rencontres. Je suis quelqu'un qui est glouton de rencontres.
Je parlais plus sur la musique que vous, pas sur celle que vous faites. Vous avez envie de faire plus en tant qu'auditeur, quoi.
Ouais. Non, j'ai des phases. Ouais. J'accroche des fois sur des artistes, j'accroche des fois sur des albums et je passe beaucoup de temps avec. jusqu'à les connaître dans le détail, dans la mesure. Mais je ne suis pas celui qui va explorer et accumuler les albums. J'ai tellement pas de temps pour faire ça, parce que mon temps est complètement rempli par les projets sur lesquels je travaille. Et des fois, quand je découvre un artiste, je vais bien sûr voir dans le style qu'est-ce qui a été fait, prendre des références, mais essayer de me concentrer au plus sur le projet du moment. Donc non, j'écoute pas autant de musique qu'il le faudrait.
Alors 1, 2, 3 projets par an, c'est ça à peu près? C'est quoi les étapes suivantes après ces deux projets, notamment qu'il y aura au Festival Métis? Ou des envies ou des rêves, je sais pas.
C'est sûr que je vais produire un disque à Mariam. On a déjà 9 titres. Je pense après deux titres supplémentaires, je peux sortir un album dont je serai très fier. Dany, c'est pareil. J'ai 9 titres d'enregistrés. Et j'ai mon album perso. Je sortis un second disque. Le premier album a été vraiment bien reçu. Donc ces trois albums-là vont me faire pas mal bosser pour les 3 prochains mois. Une fois qu'ils seront prêts, je vais commencer à prendre des dates pour diffuser les albums. Et ça, c'est mon travail pour, je pense, les 6 prochains mois. Mmh. Ensuite, il y a des films qui sont en attente pour que je puisse faire leur musique. Et on est encore en négociation, donc je ne sais pas si je vais les prendre ou pas. Je rêve de passer en Afrique un peu 3-4 mois. Parce que j'ai Kanja, qui est un artiste guinéen pour lequel j'ai produit un disque, qui va venir à Beyrouth en mai. Et il se peut que la semaine qui va passer donne naissance à un nouvel album. Donc pour l'instant, plein de choses qui préparent l'année, mais je n'ai pas encore organisé tout.
Bon courage pour ces plein de choses. Je rappelle donc que vous serez à Villetaneuse le 3 avril avec Daniel Baladi, et à Lille-Saint-Denis le 5 avril avec Mariam Saleh pour le festival Métis. Merci Zed Hamdan.
Merci à vous.
Les jambes de cire, qu'elle n'obtenait qu'elle.
Rencontre par Marc Zisman.